voulais quand même vous lire une phrase de Cynthia Fleury, qui est issue de son livre « La fin du courage ». Le devoir des courageux est de maintenir la paix éveillée, de vérifier que sous la paix déclarée, la sombre guerre des infâmes et des lâches n'a pas commencé, car alors il faudra réellement combattre.
Dans le cadre des semaines de l'égalité organisées par Saint-Étienne Métropole sur tout le territoire jusqu'au 15 octobre, la LICRA Saint-Étienne Agglomération proposait une soirée ciné-débat au Méliès Saint-François de Saint-Étienne le mardi 28 septembre autour du film La voix d'Aïda de Yasmila Zbanić. La projection fut suivie d'une conférence-discussion animée par Christian Daudel, professeur de géopolitique et consul honoraire de Moldavie, Florence Boudoussier, présidente de la LICRA Saint-Étienne Agglomération et Abigail Amblard, également de la LICRA Saint-Étienne Agglomération. Voici le synopsis de La Voix d'Aïda. À Srebrenica, en juillet 1995, modeste professeur d'anglais, Aïda vient d'être réquisitionnée comme interprète auprès des casques bleus stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé. Les habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. Chargée de traduire les consignes et rassurer la foule, Aïda est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp. Christian Daudel, en introduction de la discussion, pose tout d'abord le cadre géopolitique de cette guerre de Bosnie-Herzégovine.
Donc ce film, La Voix d'Aïda, pour nous faire comprendre que l'histoire est souvent tragique et que la guerre tue souvent et sous des modalités parfois très diverses. Alors sur cette partie de débat, je vous propose trois temps. Un premier temps où je ferai, je vous le promets, une toute petite introduction et remise en situation historique. Après cette petite présentation historique, cette mise en perspective, on vous proposera d'intervenir sur vos réactions et vos questions. Dans un deuxième temps, on reprendra le thème du film pour essayer d'éclairer les aspects qui vous ont intéressé et que vous n'avez peut-être pas toujours remis en perspective compte tenu de la complexité de cette réalité balkanique. Mais rassurez-vous, nous essaierons de rester dans une relative simplicité. Et puis, troisième étape de notre débat, ça sera consacré au discours de l'association de la LICRA pour élargir la réflexion sur la résistance à l'oppression, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et tous ces aspects. Alors, première démarche, je vais vous emmener pendant 5 siècles, mais en 10 minutes, donc ça va aller très vite. Au milieu du 15e siècle, les Ottomans ont pris Byzance et commence une extension impériale et coloniale dans cette région du monde qui est les Balkans. Région très montagneuse, très cloisonnée. Et donc, les Ottomans développent leur influence dans les Balkans et arrivent jusqu'à Vienne au début du XVIe siècle. Et à partir de ce moment-là, se met en place une rivalité féroce qui va durer plusieurs siècles entre, d'une part, l'Empire ottoman, musulmans, et d'autre part le Saint-Empire romain germanique, puis l'Empire austro-hongrois catholique. Et le champ de cette compétition, de cette confrontation, sera le territoire des Balkans que nous avons sous les yeux en partie. Donc premier siège des Ottomans à Vienne au début du XVIe siècle. Deuxième siège des Ottomans devant Vienne à la fin du XVIIe siècle. Et par la suite, il va y avoir des tensions en permanence entre l'expansion ottomane venant du sud et l'expansion de l'Empire austro-hongrois à partir du nord. Ce territoire des Balkans qui va être le lieu de cette confrontation. Je passe tout de suite au 19e siècle pour dire que c'est à ce moment-là, dans une réalité géopolitique très dispersée, où il n'y a pas d'État fort qui organise le territoire, il y a des expressions nationalistes de plus en plus fortes et qui veut essayer de se dissocier de l'influence ottomane d'une part et de l'influence austro-hongroise d'autre part. Et c'est après la première guerre mondiale et après des guerres balkaniques très importantes en 1912 que les Austro-Hongrois et les Ottomans se soient fait la guerre dans ces guerres balkaniques de 1912. Après la Première Guerre mondiale, eh bien, vous savez bien qu'il va y avoir des quantités de chamboulements de territoire. Il va y avoir, bien sûr, d'une part, la fin de l'Empire ottoman, et il va y avoir aussi la fin de l'Empire austro-hongrois. Et dans cette période post-Première Guerre mondiale, à partir de 1918, eh bien, va réémerger cette idée d'une mise en place d'un État yougoslave, État yougoslave qui devrait regrouper les Slaves du Sud et qui aurait à peu près cette configuration-là à l'époque. Donc on met en place un royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes à l'issue de cette Première Guerre mondiale. J'ai oublié de dire que à l'origine de la Première Guerre mondiale, vous savez bien qu'il y a eu l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de sa femme, et que c'est là qu'on peut marquer le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc ce territoire a été très important dans les événements qui s'y sont passés pour déclencher des événements à une autre échelle, la Première Guerre mondiale. Après cette Première Guerre mondiale, eh bien, il y a une première mise en place d'un État yougoslave qui tente de regrouper les Croates, les Slovènes et les Serbes. Avec l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale, on est là aussi à un moment très fort où les mouvements nationalistes reprennent force pour essayer de renverser la première monarchie yougoslave et instaurer un État plus républicain, sous une double influence, l'influence des nationalistes serbes et d'autre part l'influence des Serbes et Croates et Slovènes qui sont plus dans l'idéologie communiste et qui vont essayer de s'opposer à toutes les forces présentes sur leur territoire. Alors on est là en plein dans la Deuxième Guerre mondiale et c'est la Wehrmacht qui bien sûr envahit ces territoires balkaniques et qui commence un premier génocide considérable puisque à l'époque, dans les années 1941-1942, la Wehrmacht exécute 100 civils serbes lorsqu'il y a un soldat de la Wehrmacht qui est tué. Et exécution de 10 civils serbes, et notamment dès qu'il y a un soldat allemand qui est blessé. Tout ça pour rappeler que ce territoire est plein de versements de sang et qu'il y a là une espèce de tradition, si je puis dire, sans faire pour autant ni déterminisme historique, ni déterminisme géographique, une tradition de violence, un constat de violence qui est bien sûr très préjudiciable la plupart du temps à tous les civils. Alors on arrive à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, deuxième tentative d'un regroupement des États croates, serbes et slovaques. Et à ce moment-là, c'est la création de la Deuxième Yougoslavie, une Yougoslavie qu'on a connue nous-mêmes jusque dans les années 80, et même au début des années 90, une deuxième Yougoslavie qui avait comme ciment l'idéologie communiste, puisque c'était à ce moment-là un territoire qui était dans le contexte de la guerre froide et dans le contexte de l'idéologie communiste, un État qui était rattaché à, d'une certaine manière, au pacte de Varsovie et à l'URSS. Donc, mise en place de cette Yougoslavie qu'on a tous connue et qui nous était même familière, et pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être visitée. Et en 1980, la personnalité politique qui avait réussi cette mise en place de la Yougoslavie, de cette deuxième Yougoslavie, eh bien, le maréchal Tito décède en 1980. Et à partir de ce moment-là, vont ressurgir les tensions entre toutes les communautés de cet État yougoslave, les Slovènes, les Croates, les Serbes et les Bosniaques notamment. Donc, reprise du nationalisme. Par la suite, en 89, on arrive à la chute du mur de Berlin. En 91, on assiste à l'implosion de l'URSS. Et vous savez très bien qu'on bascule dans un tout autre monde géopolitique. Et à ce moment-là, il y a des mouvements de dissidence à l'intérieur de cette Yougoslavie qu'on croyait à jamais unie, qui aboutissent à ce que la Slovénie déclare son indépendance, la Croatie dans la foulée déclare également son indépendance, et que bien sûr par rapport à ça, la Serbie réagit pour essayer de maintenir l'unité de la Yougoslavie. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous avons tout le déclenchement de la guerre à partir de début 1992. Voilà ce que je voulais vous présenter comme cadrage général, insistant sur le fait que ce territoire des Balkans est un territoire qui a connu des logiques d'influence diverses et variées, d'hostilité récurrente et de grandes tensions entre des populations de religions différentes, catholiques, orthodoxes et musulmanes. Donc maintenant, je vous propose de donner votre avis sur le film et peut-être vos émotions, et puis poser des questions pour qu'on essaye d'approfondir, après ce grand travelling sur 5 siècles qui était pour le moins très approximatif, mais pour donner des repères de cette territorialité balkanique et de cette temporalité balkanique, essayer de voir maintenant comment s'explique ce film et les horreurs auxquelles on a pu assister, qui sont très révélatrices dans le détail de ce qui s'est passé dans la réalité. Alors, la parole est à vous. Essayons de reprendre des aspects de ce film et qui vous pose peut-être problème sur la compréhension des événements qu'on vous a présentés, et qu'on essaye, pour chacune de vos questions, d'apporter un petit complément d'explication.
Bonsoir. Moi, les précisions que j'aurais voulu savoir, c'est quel est le rôle finalement de l'ONU dans toutes ces guerres qui peuvent intervenir finalement que ce soit pour la Bosnie-Herzégovine, que le Rwanda, enfin, finalement, on ne voit pas bien quelle est leur utilité. Ça a été créé après la Deuxième Guerre mondiale, pour justement qu'il n'y ait plus de massacres qui se reproduisent, et puis finalement, on s'aperçoit que c'est une organisation qui ne sert à rien, enfin, de mon point de vue.
Ben, cette organisation est vénérable, certes, mais là, en l'occurrence, elle a révélé une incapacité et une impuissance totale. Et même, on peut dire, sans doute, une lâcheté, si on y porte jugement. Cela dit, ça montre à quel point la situation géopolitique et géostratégique était complexe, et que cette organisation qui avait tous les moyens d'intervenir, et tous les moyens militaires d'intervenir, eh bien, a tout laissé faire. Alors pourquoi ? Effectivement, c'est votre question, et elle est particulièrement pertinente de ce point de vue. Eh bien, parce qu'il y avait un tel désaccord entre les puissances à l'ONU, que les Russes, par exemple, opposaient leur veto à toute intervention active de l'ONU, et vous savez très bien qu'à l'ONU, il y a un bureau avec 5 représentants permanents, la Russie, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et la France, et qu'il n'y a pas eu d'accord entre ces 5 puissances. Dès que l'une donne son veto, eh bien, elle bloque tout le système. Premier élément. Et puis, deuxième élément, les Européens, dont on avait dit que plus jamais ça, plus jamais la guerre en Europe, eh bien, se sont révélés aussi d'une lâcheté incommensurable. Alors, quand je dis lâcheté, c'est pas un jugement moral, c'est un constat, parce que les intérêts des uns n'étaient pas les intérêts des autres. Et je dirais que, d'un côté, l'Allemagne a eu sa responsabilité en 1992, dès lors que, alors que la guerre n'avait pas commencé, elle allait commencer très prochainement, mais tout début 1992, elle n'avait pas commencé. Et donc, l'Allemagne a fait l'erreur, sans doute, et c'est l'analyse que je peux en faire, mais je ne suis pas le seul à faire cette analyse, de cautionner immédiatement la déclaration d'indépendance de la Slovénie et la déclaration d'indépendance de la Croatie. Quand on sait que ces deux entités régionales que vous connaissez, la Slovénie et la Croatie, qui ont tout à fait légitimité à se définir indépendants comme État, pourquoi pas, eh bien, ces deux pays faisaient partie historiquement de l'influence germanique, allais-je dire, puisque c'était dans le 14e, le 15e et le 16e siècle, une présence du Saint-Empire romain germanique qui était notoire, et après l'Empire austro-hongrois. Donc ces deux espaces, la Slovénie et la Croatie, étaient dans une perception germanique privilégiée. Et c'est pour cela que Berlin a reconnu très rapidement l'indépendance sans concertation avec les autres partenaires de l'Europe. Je vous rappelle qu'en 92, début 92, la réunification allemande avait eu lieu et que nous retrouvions désormais une Allemagne unie avec le regroupement de la RFA, République fédérale allemande, et de la RDA, République démocratique allemande. Donc il y a eu reconnaissance par Berlin de l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie, et c'est ça qui a accentué la dissidence avec les Serbes et la virulence des Serbes à ne pas vouloir accepter que l'entité yougoslave se soit démantelée. Point de détail là aussi, pour vous dire que dans l'organisation de la Yougoslavie mise en place par Tito au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Tito était certes président de la Yougoslavie et il était croate. Ça a été un facteur de stabilité et les Serbes ont accepté que ce soit un croate qui soit président de l'entité yougoslave. Mais dans la réalité des faits, c'est à Belgrade les Serbes qui tenaient toute l'administration du pays et qui tenaient très largement l'armée et donc la capacité militaire du pays. Bon. Donc par rapport à ça, on a mentionné l'impuissance de l'ONU au Conseil de sécurité, on a mentionné la menace de la Russie d'interdire toute réaction contre les Serbes. Les Européens n'ont pas fait preuve d'un courage, on l'a mentionné, et la France non plus, même si nous nous sommes beaucoup émus à envoyer des journalistes ou des docteurs éminents, beaucoup de personnes pour essayer de dénoncer ce qui se passait. Dans la réalité, en géopolitique, il n'y a qu'une chose à retenir. Ce qui compte, c'est les rapports de force. Et qu'il ne suffit pas d'envoyer des journalistes ou des commentateurs ou des philosophes pour dire, vous savez, il se passe des choses abominables, il faut absolument faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Effectivement, cette démarche militaire nécessaire à empêcher que tout se déclenche dans le sens que l'on sait, eh bien, ça n'est pas mis en place. Et de fait, les Serbes ont bien compris que l'ONU était là, mais était dans une situation où elle n'avait pas la possibilité de vraiment intervenir. Et que l'ONU n'a en plus pas tenu ses promesses, puisque vous avez vu le discours sur l'ultimatum des frappes aériennes. Alors, dans un dernier temps, et sur la fin de la guerre, une guerre qui a duré plus de 3 ans et demi, donc c'est un temps de guerre assez considérable, eh bien, les Américains, à leur habitude à taper fort et en altitude, eh bien, ont finalement envoyé des avions de l'OTAN pour bombarder Belgrade et détruire tout ce qu'il y avait de ponts et d'industries à Belgrade. Mais c'était trop tard. Et qu'effectivement, on mesure à quel point il y a eu un décalage entre les urgences de la réalité pour les civils et la réaction en force de puissances extérieures pour contenir le conflit et neutraliser les Serbes. Alors quand je tiens ce propos, je ne suis pas anti-serbe pour autant, sachant que par ailleurs, sur toute l'histoire de cette Yougoslavie, la France a toujours été un allié très fort de la Serbie, alors que l'Allemagne était davantage un allié de la Croatie et de la Slovénie. Et rappelez-vous que du temps de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de l'invasion de la Wehrmacht sur ces territoires balkaniques, eh bien, ce sont les Ustaši fascistes de Croatie et aussi un peu de Slovénie qui ont aidé la Wehrmacht. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des influences fascistes italiennes très importantes et des influences nazies très importantes qui se sont traduites par des interventions militaires conséquentes et qui ont amené à ce qu'il y a eu à cette époque beaucoup de civils déjà tués. Puisque je vous ai mentionné qu'il y a eu plus de 7000 civils qui avaient été tués en représailles lorsqu'il y avait des soldats allemands tués ou blessés. Donc sur l'ONU, c'est effectivement un échec et on se rend compte que lorsqu'il y a des conflits d'une telle complexité, c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire qu'il y a d'un côté les mauvais et de l'autre côté les méchants, dans ce territoire, tout le monde a tué. Que ce soit les Croates, que ce soit les Serbes, que ce soit les Bosniaques. Alors évidemment, sous les feux de la rampe, il y a eu peut-être mise en valeur différentes de certaines populations. Et là, en l'occurrence, c'est la Serbie qui porte la pleine responsabilité de la destruction des civils auxquels on a assisté. Mais à d'autres moments, c'était les autres populations, lorsqu'elles étaient armées, à détruire le voisin avec lequel elle avait vécu précédemment. Et on a bien vu dans le film comment les populations civiles étaient mariées entre elles, se connaissaient, vivaient ensemble, faisaient des fêtes ensemble, et que le contexte de la guerre et l'exacerbation des nationalismes et des religions, parce que là aussi, derrière tout cela, il y a une forme de guerre de religion entre les catholiques slovènes, les croates catholiques, et les Serbes orthodoxes, et puis les Bosniaques plutôt musulmans. Sachant là aussi, d'un point de vue de la répartition, dans tout ce territoire, les populations étaient mélangées. Et les Serbes qui ont emmené les hommes croates dans les camions, c'était des Serbes d'une partie de la Bosnie, au nord et à l'est, qui faisaient partie de ce qu'on appelait la République serbe de Bosnie. Donc il n'y avait pas homogénéité de répartition de la population et dans certains pays il y avait tout mélangé, des Bosniaques, des Serbes, des Slovènes, et ce qui fait qu'en situation de guerre, eh bien, son voisin du jour au lendemain s'est retrouvé être son ennemi. Et par rapport à cette situation qui est inscrite dans l'histoire, la Yougoslavie a été un moment de paix pendant la guerre froide, et l'idéologie communiste, d'une certaine manière, et l'organisation de coopération collective de la Yougoslavie, qui démarquait la Yougoslavie des autres pays de démocratie populaire en Europe centrale, eh bien, ces pays se sont retrouvés dissociés par la fin de l'idéologie communiste, qui n'a plus été ciment de cet État. Et c'est ce qu'on a appelé le dégel géopolitique, pas seulement en Yougoslavie, ça s'est produit aussi ailleurs, et vous le savez bien, en URSS en premier lieu, et aussi en Tchécoslovaquie, puisqu'il y a eu séparation, mais moins guerrière et moins cruelle, entre la République tchèque d'un côté et la Slovaquie de l'autre. Donc voilà, pour revenir sur cette question de l'ONU, c'est effectivement un échec notoire, mais dans une complexité géopolitique que les grandes instances internationales et les différents pays à l'extérieur n'ont pas su résoudre.
Je m'appelle Yves Laval, je suis président d'une association Saint-Chamondais qui s'appelle Saint-Chamond Espoir. Et nous avons fait 7 convois entre 1994 et 1997 en ex-Yougoslavie. Et je voudrais rebondir sur ce que madame disait au niveau de l'ONU. Parce qu'effectivement, si militairement l'ONU ne sert pas grand-chose, si ce n'est que son rôle est plutôt pacifique, on va dire, c'est-à-dire pour essayer d'amener un semblant de paix, enfin, voilà, auprès des gens. Nous, en tant qu'association, on avait souvent recours à l'ONU, qui nous apportait leur concours, qui nous apportait leur matériel. Je me souviens qu'on avait dans les camps de... Parce que quand il y avait la guerre, les Serbes étaient exterminés en Croatie, et les hôtels qui étaient le long de l'Adriatique servaient de camps de réfugiés. Donc nous allions dans ces camps de réfugiés sous le couvert de l'ONU, qui nous aidait du mieux qu'il pouvait, avec les camions, avec un certain nombre de choses. Il nous est arrivé de créer des dispensaires pour ces populations qui étaient complètement exterminées, qui étaient vraiment dans des états de souffrance terrible. Et chaque fois qu'on avait besoin d'un camion, qu'on avait besoin d'une grue pour traîner des espèces de mobilhomes qu'on amenait de France, hein, on avait recours à l'ONU. Donc c'est simplement pour dire que les associations humanitaires, nous étions bien entendu pas la seule, on avait besoin justement de ces soldats, de leur matériel, pour nous aider, sinon nous ne serions pas arrivés. Donc voilà, c'est simplement... un petit bémol par rapport à l'ONU que je voulais apporter, parce que en ces temps-là, on a vraiment eu besoin d'eux, et puis c'était des gens, ils étaient à notre service, on était là, nous on apportait le matériel, par exemple, un exemple très concret, tous les matelas, les lits, le scanner qui était à l'hôpital de Saint-Chamond, c'est nous qui les avons emmenés là-bas, et tout seul, notre association n'aurait rien pu faire. C'est grâce à l'ONU qu'on a pu installer tout ce matériel dans des hôpitaux de fortune, hein. Mais c'est voilà, quand j'ai entendu qu'on me disait que l'ONU ne servait à rien, ça m'a fait un petit peu rebondir. Voilà, c'est simplement mon témoignage.
Mais votre témoignage est très précieux. Effectivement, nous n'avons pas parlé jusqu'à présent de l'importance des actions des associations. Et effectivement, à partir de la France, il y a eu beaucoup d'interventions qui sont humanitaires. Qui sont intervenus et qui ont joué un rôle considérable. Alors vous avez raison de dire que l'ONU sur le terrain a fait ce qu'elle a pu, et on a bien vu comment les militaires essayaient de faire ce qu'ils pouvaient, mais l'ordre il vient d'en haut, et que autant les soldats de l'ONU sur le terrain ont réussi à apporter une aide décisive à toutes vos actions associatives humanitaires, autant le système était bloqué au niveau central, et où les grands décideurs de ce monde, qu'ils soient à Washington, qu'ils soient à Paris, qu'ils soient à Berlin, qu'ils soient à Londres ou qu'ils soient à Moscou, n'ont pas réussi à s'entendre, et notamment pas dans le cadre de l'ONU, pour apporter une aide déterminante à cette situation complexe. Et où là, c'était plus question d'humanitaire, c'était question de rapport de force militaire, et qu'effectivement, alors je ne suis pas dans le secret des dieux, mais l'ONU n'a pas réussi à trouver les modalités de son intervention militaire pour empêcher les horreurs qu'on a pu voir. Alors vous me direz que ce qui s'est passé en Afghanistan récemment, ça nous donne aussi une illustration de l'impuissance des organisations internationales politiques quand elles veulent intervenir dans un territoire qui n'est pas le leur et où elles ne savent pas forcément bien agir pour empêcher que la barbarie prolifère. Donc votre remarque est tout à fait judicieuse. En rappelant qu'il y a donc eu beaucoup d'actions d'associations humanitaires, que l'ONU a fait tout ce qu'elle a pu sur le terrain, mais les ordres étant les ordres, on a vu à quoi ça a abouti. Et à la fin, ça s'est terminé par un bombardement massif des avions de l'OTAN sur Belgrade pour réduire définitivement la puissance serbe et notamment sa capacité militaire. Et que là, effectivement, on a abouti à une fin de la guerre par empêchement des Serbes à continuer militairement le combat. Je précise, puisqu'on ne l'a peut-être pas encore dit, mais ce sont les Serbes qui ont enclenché les premiers la logique d'épuration ethnique. Et qu'effectivement, l'idée, c'était de séparer des populations qui ne s'entendaient plus, semblait-il, alors que jusqu'à présent, elles s'étaient bien entendues, mais où les conditions de haine, d'animosité et de tension entre les populations ont abouti à ce que, même entre voisins, ils se sont entretués parce qu'ils n'étaient pas de la même, alors je vais dire ethnie, peut-être pas de la même langue et en tous les cas pas de la même religion. Et que là aussi, ce fondement des événements de Serbie et de Bosnie-Herzégovine, c'est à la fois une dimension nationaliste de recomposition d'un territoire après son implosion de la Yougoslavie et mise en place d'États indépendants, ce que la Serbie ne voulait pas accepter parce qu'elle avait toujours son image nationaliste de la Grande Serbie. Hein, voilà comment ça s'est passé sur cette modification du territoire après le tremblement de la chute du mur de Berlin, je rappelle, et le encore plus grand tremblement de la fin de l'URSS. Donc tout ça est lié et la Yougoslavie est déduite de cette fin de guerre froide sous les deux formes que ça a pris, la chute du mur de Berlin et l'implosion de l'URSS.
Oui, sur le rôle des ONG et l'action humanitaire, on peut même aller un peu plus loin sans remettre en question la sincérité et tout le travail qui a été accompli par les ONG et les bénévoles, comme le monsieur l'a dit. On peut même dire qu'il y a eu une instrumentalisation de l'action humanitaire qui a remplacé l'action politique. Parce que si vous regardez, notamment au niveau de l'Union européenne, les budgets qui ont été alloués aux ONG pendant ces années, entre 92 et 95, ont littéralement explosé. Et en fait, il ne faut pas être devin pour bien comprendre que les politiques se sont achetés une bonne conscience en augmentant ces budgets de façon considérable et en étant complètement, on va dire, impuissant ou inerte, ou en manquant de volonté politique et diplomatique au regard de l'implosion et des guerres et de la guerre en ex-Yougoslavie. Voilà. Regardez les budgets consacrés qui ont été donnés aux ONG entre 92 et 95. Certaines ont un peu surfé d'ailleurs sur la vague. Moi, j'étais bénévole à cette époque et j'ai eu l'occasion d'aller en Croatie en 94. Donc voilà, c'est juste une petite remarque pour dire que derrière la mission salvatrice et que tout le monde, bien sûr, reconnaît d'une ONG, il peut y avoir aussi une instrumentalisation politique. Voilà. Et ça se fait par le financement, parce qu'une ONG a besoin d'argent pour fonctionner. Et voilà. Et pendant ce temps, les politiques, comme vous l'avez si bien dit, eux, ils regardent, ils comptent les morts.
Tout à fait.
Alors que leur métier, c'est d'abord de faire cesser les guerres.
Oui, c'est pas à vous sans doute que je vais dire qu'il y a eu intervention dans ce conflit de militaires français sur le terrain pour essayer là aussi d'empêcher les horreurs et que les militaires français avaient consigne d'empêcher autant qu'ils le pouvaient les massacres. Mais à un moment donné, les militaires français, comme d'autres dans l'ONU, ont été dépassés par l'ampleur du phénomène. Hein. Alors on l'a bien vu quand Aïda monte sur un camion et voit toute la foule, on a là effectivement une population très importante. Et qu'est-ce que vous voulez que fasse dans cette situation-là un militaire quand il a pour lui que sa bonne conscience et que sa volonté de bien faire? Il n'a aucun moyen et aucune prise sur une telle réalité. Donc, il y a eu une situation de débordement de tout le monde, on va le dire comme ça, et que dans ce contexte-là, c'est la barbarie qui a pris le dessus, parce qu'il n'y avait pas de volonté politique à intervenir dans un vrai rapport de force à ce que ces massacres ne se produisent pas. Alors moi, j'ai des amis militaires qui étaient en Yougoslavie et qui m'ont raconté leur expérience. Et là aussi, c'était édifiant. Et ils étaient eux-mêmes complètement écœurés de voir à quel point les gouvernements centraux aux États-Unis, en France, en Angleterre et en Russie ne prenaient pas la mesure de la catastrophe humaine qui se mettait en place. Mais c'est dérisoire de dire ça et un peu cynique. Dans des situations comme cela, on ne prend pas en compte le nombre de morts civiles à la sortie. Hein. Donc il y a eu effectivement, et vous l'avez justement dit, une bonne conscience à donner de l'argent pour aider des associations humanitaires qui ont fait, elles, un excellent travail, mais très insuffisant au vu de l'équation stratégique telle qu'elle était posée. Hein. Et qu'effectivement, tout le monde est reparti avec grande amertume, voyant à quel point tous avaient échoué à éviter les massacres.
Quel était le ou les pays qui alimentaient la Serbie en armement ? Au début du film, on voit des chars. Je pense que la Serbie n'était pas un grand fabricant de chars, d'assaut. D'où ils venaient de ces chars ? Russie ?
Mais ces chars venaient de la période précédente. On est en 92. Tito meurt en 80. Pendant toute la décennie 80, la Yougoslavie continue à vivre de manière unitaire et elle a son armée. Et une armée qui était assez forte et avec tout un armement qui était tenu par les militaires serbes. Quand je vous ai dit que Tito était d'origine croate, c'était là aussi une caution habile pour que l'ensemble tienne de manière unifiée. Donc, c'était le président croate qui jouait ce rôle-là, mais la vraie administration du pays était le fait des Serbes, parce que les Serbes, c'était la plus grande entité de population, c'était la plus grande entité de territoire, et puis c'est le pays qui, dès le 19e siècle, et je vous l'ai mentionné très brièvement tout à l'heure, avait eu cette approche nationaliste au bon sens du terme, c'est-à-dire cette idée forte de créer un État qui soit un État unitaire, qui soit aussi un État centralisé, et d'une certaine manière, les Serbes s'étaient inscrits dans un fonctionnement très jacobin, si je puis dire, pour le comparer à l'évolution historique de la France. Et c'est bien pour ça que la France, depuis la Première Guerre mondiale, et a fortiori durant la Deuxième, a toujours été un allié très important pour la Serbie, alors que Croatie et Slovénie, pour des raisons historiques que j'ai mentionnées aussi, étaient plus proches de la sphère germanique. Et donc on retrouve là aussi toutes les influences historiques qui font que la France n'a pas trop voulu intervenir contre la Serbie, qui était un très grand allié historique, que l'Allemagne a choisi de soutenir la Croatie et la Slovénie parce que c'était aussi des alliés historiques depuis l'Empire austro-hongrois et ensuite pendant la période nazie, et que là, ces influences historiques des pays européens a abouti que entre eux, et même s'ils étaient dans ce qu'on appelle l'Union européenne, qui en l'occurrence n'a servi strictement à rien, eh bien n'ont pas réussi à mettre en place une vraie intervention d'ordre militaire et pas forcément à trop tuer en intervenant, mais au moins en ayant une force d'interposition qui aurait fait le poids par rapport à la détermination serbe. Et je pense que la France et l'Allemagne pouvaient comprendre ça. Elles n'ont pas joué ce rôle. Alors après, vous y mettez des gens de l'ONU qui sont des Hollandais, qui sont des gens charmants, mais qui n'ont rien compris à la réalité stratégique des Balkans. Hein, et a fortiori encore plus les Américains, qui, en dernier recours, ont bombardé tant qu'ils ont pu sur la fin de la guerre.
Juste quelques réflexions que m'inspirait ce film. La première, c'est qu'effectivement, quand il n'y a pas un enjeu idéologique ou économique, que le seul enjeu, c'est l'assistance et plus généralement le sanitaire, ben on n'envoie pas l'armée, quoi. Hein, on dépêche l'artillerie lourde quand effectivement il y a un enjeu idéologique ou économique. Quand l'enjeu est seulement sanitaire, ben on s'achète effectivement une bonne conscience avec les ONG. Ça, c'était la première réflexion. La deuxième, c'est, je me pose la question, est-ce qu'on peut faire un pays avec plusieurs nations? Le contre-exemple, vous l'avez cité, c'est la réunification de l'Allemagne de l'Est. Une seule nation pour deux pays, ça ne marche pas non plus. Au bout d'un moment, ça se rassemble. Et la troisième réflexion, c'est à partir de... Est-ce qu'il y a un quota, à partir de quand on parle de génocide? Parce que je crois que là, il n'y a pas eu encore de reconnaissance de génocide en tant que tel.
Non, situation, vous avez raison, ce n'est pas considéré comme le génocide, mais dans la troisième partie du débat, Florence et Abigail reviendront sur ces aspects-là désignation de l'événement. Est-ce que c'est un génocide? Est-ce que c'est pas un génocide? C'est vrai qu'en regardant ce film, nous avons tous pensé au génocide arménien, nous avons tous pensé à la Shoah, nous avons tous pensé aux différents génocides et crimes de guerre qui ont parcouru l'histoire. Je vous rappelle que là, bon, on est sur ce massacre à 8500 morts. Hein, vous me direz, c'est déjà pas rien, mais au même moment, une année avant, en 1994, il y avait le génocide des Tutsis, et là, 1 million de morts. Et qu'avons-nous fait à ce moment-là? Quand je dis ça, c'est pas pour vous culpabiliser, ni pour vous culpabiliser, mais quelle a été la perception qu'on a eue de ces événements? Bon, on savait qu'il y avait des destructions, des tueries de masse au Rwanda, mais ça n'a pas forcément mobilisé les foules, sauf des associations caritatives ou humanitaires qui sont dans ce type d'intervention. Mais là aussi, on n'a rien pu empêcher. Alors que là, ce génocide, c'était à coups de machette et à coups de hache. Hein. Donc ce n'était pas de l'artillerie lourde. Bon, donc en 1994, génocide Tutsi, 1 million de morts. Alors vous allez me dire, mais je ne vais pas faire mon sordide et mon cynique, 8000 ici, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins, mais c'est déjà trop, bien évidemment. Mais tout ça pour vous faire aussi cette réflexion qu'en géopolitique, et c'est mon travail de réfléchir de cette manière, il faut être cynique, parce qu'il ne faut pas laisser place à l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'on est un monstre. Et je vous confirme que moi-même, je ne suis pas un monstre. Mais si on veut vraiment apporter des solutions à des situations guerrières de ce type, il faut vraiment qu'on ait prise en compte de toutes les responsabilités des uns et des autres, toute l'appréciation des rapports de force de ceux qui ont des armes et de ceux qui n'en ont pas. Alors pour revenir sur votre question, les tanks serbes, ben c'était les tanks qui étaient dans l'armée serbe. Et c'était les Serbes qui détenaient l'armement lourd. Alors il y en avait un petit peu du côté slovène, un petit peu du côté croate, mais très rapidement quand même ces deux pays se sont un peu mis de côté, même s'il y a eu quantité de morts de la part des uns et des autres. Et voilà.
Juste par rapport à l'ONU, on avait noté quand même quelques dates, en particulier par rapport à la Cour pénale internationale. Parce qu'en juillet 1995, donc Radovan Karadzic et Ratko Mladic, donc le général, ont été mis en cause pour génocide. En avril 2004, le génocide est confirmé puisque le tribunal pénal international pour la Yougoslavie a statué sur le fait que c'était véritablement un génocide. Donc c'est reconnu, même si c'est discuté par ailleurs par un certain nombre d'historiens qui reviennent sur ce fait, mais ça a été décidé en cour pénale internationale. En mai 2011, donc Ratko Mladic est arrêté. Et en mai 2012, c'est l'ouverture de son procès pour génocide, meurtre et persécution. Voilà. Et par rapport à la mémoire, donc il y a un lieu de mémoire qui a été inauguré en 2003 au cimetière de Potocari. Et à ce jour, il manque encore 1000 corps qui n'ont pas été retrouvés. Voilà. Merci beaucoup à Christian Dodel pour tous ces éclairages sur ce massacre et son contexte historico-géographique et politique. Maintenant, je vais laisser la parole à notre nouvelle présidente, puisque c'est la nouvelle présidente de notre association, la LICRA, Florence Boudoussier.
Au sein de notre association, ce qu'on cherche à faire notamment, c'est préserver cette mémoire des génocides. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment démonter le processus d'injures, d'insultes, d'actes relativement pas très graves, mais on arrive justement à cette escalade et au niveau le plus grave, le plus terrible, qui est les génocides. Et ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment développer auprès des jeunes cette vigilance qu'on doit avoir de tous les instants. Et quand on voit à la fin du film, en fait, ce professeur Aïda qui met en scène ses enfants qui ont, donc on voit ses petites mains qui comme des colombes et ensuite qui se cachent les yeux puis qui les ouvrent, qui montre justement on sent qu'en fait ce qu'elle cherche à faire, à transmettre et faire en sorte que ses enfants soient vigilants, c'est-à-dire ne se voilent pas la face et restent vraiment ouverts sur le monde. Ce qu'on cherche à faire, nous, dans nos différentes actions et notamment dans ce qui est l'éducation, que ce soit dans les établissements scolaires ou bien dans les clubs sportifs, c'est justement développer cette vigilance, faire en sorte que les jeunes développent leur esprit critique et ne s'attachent pas, soient vigilants aussi à leurs sources d'informations. On leur parle justement d'informations sur les réseaux sociaux, d'être très vigilants, de ne pas prendre toute information sans prendre un petit peu de recul et s'entourer d'avis, de rechercher les sources et de pas prendre ce qui voit sur les réseaux sociaux ou sur les différentes sources comme des vérités et prendre vraiment du recul par rapport à ça. C'est la première des choses qu'on cherche à transmettre. On cherche à transmettre également bien sûr les valeurs républicaines. On était ce matin dans le cadre des semaines de l'égalité dans un collège à Unieux où on a parlé avec les élèves de 5e de laïcité, de devises républicaines. Et ils avaient d'ailleurs dans leur carnet de correspondance la charte de la laïcité qu'ils devaient signer, qu'ils avaient dû signer, eux et leurs parents. Et on a trouvé que c'était vraiment un beau message. Voilà.